Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Laurence Dumont du Centre d'études sur le stress humain. On parle effectivement de ce fléau, le stress. Plus tard à l'émission, à l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les 5 avantages des mandalas. En début de deuxième demi, notre invitée est Lisa Benisti, qui vient nous parler de la ressource en santé mentale, prise 2. Alors tout ça dans le menu de Folie 2 cette semaine. On commence en chanson avec Mara Tremblay. La chanson s'intitule « Je reste ici ». Bienvenue à Folie 2.
Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mon invitée, Laurence Dumont. Bonjour, Madame Dumont.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes chercheure postdoctorale au Centre d'études sur le stress humain qui est affilié à l'Université de Montréal. J'aimerais qu'on puisse préciser en fait ce que c'est le Centre d'études sur le stress humain.
Oui, donc on est un laboratoire de recherche qui est affilié au Centre universitaire en santé mentale de Montréal, qui est vraiment dans l'Est de Montréal, donc l'ancien Louis-Hippolyte Lafontaine. Et puis, on se centre vraiment sur la réaction de stress de l'humain puis comment ça l'affecte dans son quotidien. Donc, on étudie l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée. On peut tous et toutes être stressés, donc on se centre vraiment sur l'humain, comment il vit son stress et comment aussi ses hormones de stress peuvent avoir un impact sur le quotidien, sur la mémoire et tout ça.
Est-ce que ça fait longtemps que le centre existe?
Oui, donc il a voyagé un peu dans les institutions universitaires montréalaises. Donc avant, c'était à McGill, maintenant, c'est rendu avec l'Université de Montréal. Donc on est là depuis plusieurs décennies. Moi, je me suis joint à l'équipe il y a quelques années, mais donc le centre est piloté par Sonia Lupien, qui, elle, donc est vraiment une vétérante de l'étude du stress.
Et pourquoi, à une certaine époque, on a senti le besoin? Bien, c'est probablement le mal du siècle, le stress. Il y a toujours eu du stress à toutes les époques. T'sais. On parle peut-être même de l'époque préhistorique où ils devaient se vivre du stress. Le stress fait comme partie de la vie. Mais pourquoi avoir décidé, à un moment donné, de s'intéresser au stress?
Donc, comme vous dites, le stress, ça existe depuis toujours. Hein? Donc, si on n'avait pas de stress, si on n'avait aucune réponse de stress, on n'aurait pas été capable de réagir à notre environnement, de s'adapter, de combattre, de fuir. Puis le stress, à travers les années, donc c'est relativement nouveau comme champ d'étude. Donc, ça a commencé à être étudié au milieu du 20e siècle. Par contre, ça a eu des noms qui étaient différents dans l'histoire. Donc, on a commencé à appeler ça stress avec un chercheur montréalais, donc Anselier, au milieu du 20e siècle. L'étude du stress s'est vraiment beaucoup développée à Montréal et entre autres en Allemagne aussi. Donc, pour essayer de comprendre donc comment est-ce que l'humain réagissait face à des situations qui étaient très, très, très difficiles. Ça a été premièrement étudié chez l'animal. Donc, quand on met un animal dans une situation adverse, stressante, il y a toute une cascade de conséquences pour la santé qui arrive. Puis, ben souvent, on prend l'animal comme modèle pour l'humain. Et puis, donc, on voyait des parallèles qui se faisaient là-dessus. Donc, vraiment, c'est une science qui passe de l'humain à l'animal, de l'animal à l'humain, pour essayer de comprendre comment on s'adapte dans des circonstances qui sont difficiles, comment notre corps s'adapte. Parce qu'en fait, comme je disais, le stress, c'est la réponse de notre corps à une menace. Donc, cette menace-là peut venir de pas mal n'importe où, de n'importe quoi. Dans le temps, dans la préhistoire, souvent, on s'en étudie du stress, on utilise l'image du mammouth. Donc, lorsqu'on faisait face à un mammouth, c'était nous ou c'était lui. Et puis, si on n'avait pas eu donc la réponse d'adrénaline, la réponse de cortisol, toute cette cascade de produits chimiques-là qui se produit dans notre corps, on n'aurait pas fait long feu face au mammouth. Donc c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. On a commencé à l'étudier justement relativement récemment. Et puis, plus on comprend comment il y a un impact sur notre santé physique, notre santé mentale, notre évolution, notre développement, le développement des enfants, et plus on est capable justement d'outiller les gens pour être capable de faire face.
Et la perception en société, en fait, c'est souvent très négatif, le stress. Mm-hmm. Peut-être réapprendre à conjuguer avec le stress, parce que la plupart du temps, quand les gens parlent de stress, c'est comme déjà en partant, c'est comme si on reculait d'un pas, là, ça nous met tout de suite un peu sur la défensive, mais il y a sûrement une façon, sans ignorer les effets néfastes, là, que de le voir peut-être d'une façon plus constructive.
Non, complètement. Même juste la manière qu'on approche une situation, puis il y a des situations qui sont objectivement difficiles et négatives, là, si on se mentira pas, puis on mettra pas des lunettes trop roses, mais la manière dont on approche une situation, si on la voit comme une menace ou comme un défi, donc négatif ou positif, ça va avoir un impact sur la manière dont notre système de stress va réagir. Donc, la manière dont on perçoit le stress dans l'environnement a un impact. Donc, en effet, je suis complètement d'accord avec vous. On voit le stress comme étant assez négatif en société, puis c'est peut-être la manière dont l'inconscient collectif, si on peut dire, c'est approprier le mot stress. Au départ, le mot stress, ça vient du monde des métaux. Parce que les métaux et les matériaux, lorsqu'on les bouge et qu'on les teste, on les stresse. Donc, ça a été emprunté à ce monde-là. Et puis, on dirait que le mot a changé pour venir dire toute émotion négative ou toute réaction frustrante. Alors, qu'est-ce que c'est? Un stress, c'est une menace ou un test à nos capacités. Donc, quand on va pour faire une entrevue à la radio, par exemple, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, par exemple.
Exact. Un exemple parmi tant d'autres. C'est un défi. Donc, lorsqu'on le perçoit comme un défi, notre corps est prêt à faire face à ce défi-là. Donc, lorsqu'on perçoit une menace ou un défi, ben nos sens s'aiguisent, notre corps se prépare à l'action, et puis ça nous permet de mieux performer jusqu'à un certain point. Donc, si on est trop stressé, on va peut-être bien moins bien performer. Mais si on n'est pas assez stressé non plus, nos sens ne seront pas assez aiguisés pour faire face au défi ou à la menace qui est en face de nous.
Donc, c'est un art là, de maîtriser le stress, de s'en servir, mais de ne pas le subir. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Puis aussi, il y a deux types de stresseurs. Hein? Donc, il y a les stresseurs qui sont absolus, les vrais stresseurs dans lesquels tout le monde va être stressé face à ça. Donc, on a un accident de voiture. C'est un stresseur pour tout le monde. On a une maladie qui est grave, c'est un stresseur pour tout le monde. Il y a des stresseurs qui sont plus perçus, qui sont plus relatifs, puis quand on comprend qu'est-ce qui compose ce stresseur relatif-là, par exemple une boîte de courriel pleine puis des notifications qui n'arrêtent plus, quand on y pense, ça ne menace pas vraiment notre survie, mais quand on est capable de les décortiquer un peu plus, ces stresseurs-là, du quotidien du 21e siècle, bien, on est capable justement de mieux faire face, puis peut-être un peu de mieux s'outiller face à ces menaces qui sont perçues là.
Oui, on est en compagnie de Laurence Dumont, donc on parle de stress. On a vécu comme collectivité mondialement, puis bon, spécialement, on parle maintenant de notre société au Québec, beaucoup de stress avec la pandémie qui a commencé en mars 2020. Est-ce que ce point-là, j'imagine que ça vous donne énormément de matière comme chercheur, là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au stress là, en rapport avec la pandémie de la COVID-19?
Il y a vraiment depuis le début de la pandémie, c'est la prolifération de la littérature sur le stress et la santé mentale pendant la pandémie. On est parti avec un bon point de départ, en fait, parce que dans les dernières décennies, on en a eu d'autres des pandémies. C'est clair que on peut pas reculer trop loin dans le temps parce que les conditions sanitaires n'étaient pas nécessairement les mêmes. Mais quand on regarde les épidémies de SRAS puis de grippe aviaire des dernières décennies, il y a eu des études qui ont été déjà faites. Donc, on est parti de ces études-là pour essayer de venir prédire, bon, ouais, qu'est-ce qui peut se passer autant à court, à moyen, à long terme quand on va faire face à une pandémie. Ça fait partie un peu de ce avec quoi on est parti comme point de départ. Puis nous, au Centre d'études sur le stress humain, ben nos mesures principales, quand on mesure les hormones de stress, c'est la salive. Donc, je vous dirais que ça a peut-être pris un petit coup de retard quand on a fait face à la pandémie. Ça donne pas trop envie de jouer avec la salive, mais on peut vraiment aller du côté de comment est-ce que le stress est perçu, quels sont les stresseurs autour de nous. Puis quand on décortique qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne, bien, quelqu'un qui est plus à risque avec un problème de santé physique, quelqu'un qui est plus exposé à la COVID, donc tout ce qui est les travailleurs essentiels, les travailleurs de la santé, ben il y a un stresseur qui est beaucoup plus présent, qui est plus fort. Donc, il y a des conséquences sur les niveaux de stress ressentis puis la santé mentale qui sont plus importants que dans la population générale.
Ça veut dire que la salive va donner une indication? Est-ce que la personne est en plus stressée? Est-ce que c'est un peu comme temporel là, au moment qu'on fait le prélèvement?
Exact. Donc, nos hormones de stress vont être relâchées à travers tout notre corps au complet. Puis quand on prend un échantillon de salive, on peut voir là, à ce moment-là à quel point il y avait du cortisol, donc notre hormone de stress, en circulation. On peut aussi regarder dans les cheveux de la personne pour voir à quel point il y en a qui s'est accumulé au fur et à mesure du temps. Il y a différentes mesures qu'on peut regarder pour le stress physiologique. Donc, à quel point est-ce que notre corps s'est préparé à faire face au mammouth. Par contre, le stress psychologique, c'est comment nous on le ressent et comment nous on en souffre. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça va pas mal dans la même direction en général.
Et on se demande toujours, avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a des situations très stressantes au quotidien là, qui ont été vécues par les gens, mais moi, je me pose toujours la question, est-ce que ça va être un peu un après-coup? Est-ce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, est-ce qu'il y aura des effets qu'on s'attend pas vraiment? Je me demande si c'est un point aussi que vous étudiez, que vous posez peut-être les questions sur le sujet?
On se pose des questions présentement parce qu'on sait que ça peut s'en venir, en effet. Comme je disais, quand on regarde les études qui ont été faites sur les pandémies précédentes, donc les épidémies précédentes, surtout d'influenza, bien, il y a des conséquences à long terme, donc des problèmes de santé mentale qui se développent soit pendant la pandémie puis qui perdurent dans le temps, ou encore des problèmes qui se développent par après. Souvent, l'hypothèse qu'il y a derrière ça, c'est que ben, quand on est en situation de stress de manière chronique, donc notre réponse de stress qui nous permet de faire face aux menaces n'est pas juste déclenchée une fois de temps en temps, mais vraiment toujours sollicitée, notre système s'épuise, puis on a donc des conséquences qui sont négatives sur la santé physique, sur la santé mentale. Donc, ça, ce sont des conséquences qui sont à moyen, qui sont à long terme. Donc, dans les premières semaines, au début de la pandémie, ben quand on venait de se faire annoncer qu'on allait rester à la maison juste pendant deux semaines, ben, c'est clair qu'on s'est tous et toutes adaptés, que c'était un gros changement, c'est un gros stresseur. Mais au fur et à mesure que ce stress-là s'accumule à travers les mois, peut-être même à travers les années, on n'espère pas trop, mais au fur et à mesure que ce stress-là s'accumule, bien, il y a des potentiels de développer autant des problèmes de santé physique et mentale, d'où l'importance vraiment de bien s'outiller par rapport à sa réponse de stress, puis aussi d'avoir des politiques ou des programmes plus à l'échelle sociale qui nous permettent donc de s'assurer qu'on n'est pas en train tous de se stresser de manière chronique.
Oui, il nous reste à peu près deux minutes pour donner espoir aux gens. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme point, les points les plus importants, disons, à essayer de travailler pour éviter ou en tout cas contrôler le stress, ça serait quoi?
Oui. En effet, parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Donc, le Centre d'études sur le stress humain, une grosse partie de notre travail, c'est vraiment de s'assurer de transférer les connaissances au grand public parce qu'il y a des solutions puis il y a des techniques à utiliser pour mieux faire face à son stress. Si vous avez des jeunes, vous êtes un jeune, on a un nouveau programme qui s'appelle « Sur ton stress » qui est disponible en ligne gratuitement. C'est quelques capsules sur YouTube. Donc, tout ça est sur notre site web stresshumain.ca. Et puis, on a aussi donc plusieurs podcasts, donc des billets de blog, des outils aussi, donc des grilles dans lesquelles on peut essayer de déconstruire notre stress pour comprendre qu'est-ce qui nous stresse et comment agir sur ces stresseurs-là. Donc, on a vraiment toute une gamme d'outils développés donc par notre équipe de scientifiques au Centre d'études sur le stress humain qui peuvent venir donner un coup de main donc à tout le monde.
C'est un peu, faut apprendre un peu à je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, à dompter notre stress, là, à avoir le dessus sur notre stress. C'est un peu ça, là.
Mm-hmm. Donc, c'est un peu l'idée derrière le nom du programme « Surf ton stress », de voir le stress comme une vague. La vague peut soit nous emporter, soit on l'utilise pour la surfer. Donc, en apprenant donc à dompter notre stress, à le comprendre puis à l'utiliser comme un outil, ben, ça nous permet de voir tous ses effets positifs sans nécessairement tomber dans l'autre côté, dans le côté plus négatif. Donc, c'est des outils qui sont disponibles gratuitement et en ligne, donc qui peuvent aider vraiment tout le monde.
Donc, avant de terminer, Mme Dumont, on va rappeler le site web très facile à retenir où toutes les ressources, si vous avez des études, ça se trouve là, ça se retrouve là, les outils et tout. Donc, quel est-il déjà?
Exact. Donc, c'est stresshumain.ca. Donc, vous pouvez aussi chercher donc les réseaux sociaux du centre d'études et de notre directrice Sonia Lupien. Donc, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On partage beaucoup donc de contenu scientifique et médiatique sur le stress.
Merci beaucoup, Mme Laurence Dumont, d'avoir été des nôtres. Vous êtes chercheure postdoctorale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça nous a fait mieux connaître le stress et on va certainement être moins stressé avec les bons trucs. Donc, merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso avec Pierre Laporte et moi-même. On va parler, Pierre, aujourd'hui, les cinq avantages des mandalas.
Oui, je dois t'avouer que c'était un mot que je ne connaissais pas.
Moi, je me demande bien où tu vas nous amener avec ça. C'est peut-être le sujet qui me dit le moins de choses.
Mais en fait, c'est une de nos chroniqueuses, c'est Ève Cardinal, qui avait parlé des mandalas. Ça s'écrit M-A-N-D-A-L-A. Habituellement, on utilise le pluriel.
Le pluriel avec un S.
C'est un mot, j'imagine, d'une langue hindoue. C'est, en fait, je voulais chercher des passe-temps qui avaient l'attribut d'être relaxant.
OK.
Quand on vit des fois dans des périodes de temps qui sont énervantes, ouais. on peut avoir besoin
ben,
justement.
On parlait du stress, justement. c'est effectivement, pendant des périodes de stress, ça peut très sûrement aider. Oui.
Donc, le mot mandala, ça, je pense pas que ça dise grand-chose à personne, mais... En fait, je pense qu'on a tous déjà vu c'est quoi des mandalas sans savoir le nom. En fait, c'est des dessins qu'on fait sur le sol. On voit souvent les peuples hindous qui font ça. C'est des dessins qui sont pleins de couleurs, avec toutes sortes de symboles qui sont totalement étranges pour nous, là, les Occidentaux. Et puis souvent, on va colorer les espaces qui sont sur le sol, là, dans le cercle, avec de la poudre. Des fois, on va prendre toutes sortes...
Des couleurs vives, oui. Là, un rose très, très rose, puis ouais, effectivement,
exactement,
jaune,
oui.
Des oranges.
Mais j'imagine que ça doit prendre beaucoup de pratique. C'est pour ne pas dépasser l'endroit réservé pour telle ou telle couleur. C'est difficile un peu de décrire parce qu'on est à la radio, mais on peut aller voir sur Internet, sur YouTube, par exemple, de quoi ça a l'air, les mandalas.
Ouais.
Alors, je suis allé sur un article sur Internet... C'était sur le site nospensées.fr, un article qui s'appelle « Les cinq avantages des mandalas ». Alors, le mot « mandala » vient du sanskrit, il signifie « cercle sacré ». Parce que, comme je disais tantôt, ce sont la grande majorité du temps des cercles que l'on dessine et qu'on remplit de couleurs. Ces représentations en forme de cercle sont utilisées dans différentes cultures telles que hindoues, chrétiennes et dans certaines tribus bouddhistes indigènes, comme un élément artistique ou comme un moyen pour la personne de se retrouver elle-même. Selon les croyances de certaines cultures, les mandalas sont liés aux énergies de la vie. Les cultures orientales considèrent, par exemple, que chaque couleur est associée à un chakra, ces centres d'énergie qui sont connectés à notre être et à l'environnement et qui favorisent le bien-être. Par conséquent, les mandalas qui les contiennent le favorisent également. Ils sont une merveilleuse technique légendaire qui nous apporte de multiples avantages. Et en voici les cinq principaux. Premièrement, les mandalas apportent la relaxation. On nous dit « dessiner et colorier des mandalas aide à focaliser l'attention ». Il s'agit donc d'un excellent exercice pour calmer la sensation de stress et éclaircir notre esprit. Ils apportent la paix et la sérénité. Les mandalas aident en plus à la concentration. Ils nous permettent de mettre de côté les pensées et de laisser couler la créativité. Et les dispositions des figures transmettent une sensation d'équilibre.
De l'art-thérapie, finalement.
Exactement, c'est oui. Ça. Et tu vas voir plus loin qu'on s'en sert, justement, à ces fins. Le deuxième avantage des mandalas, on nous parle d'une connexion profonde. Les mandalas facilitent la connexion avec la part la plus intime de nous-mêmes, de sorte qu'ils favorisent la connaissance de soi. Ils sont un merveilleux exercice de réflexion sur notre place dans le monde et sur la relation que nous entretenons avec les autres. C'est assez difficile à croire que tu peux atteindre ces objectifs-là seulement qu'en faisant des dessins compliqués, mais peut-être qu'il faudrait l'essayer.
Oui, il faut mettre en pratique. Peut-être qu'on voit les bienfaits immédiats.
Peut-être que ça demande tellement de concentration que ça t'amène ailleurs.
Moi, j'en ai jamais fait, en tout cas. J'ai déjà vu des mandalas, tu sais, ils se vendent comme des mandalas imprimés là, sur du tissu. Puis les gens,
exactement,
des fois, vont accrocher ça. Mais
oui, on en parle plus loin. Même.
Ouais.
On nous dit aussi que les mandalas sont en outre une forme de méditation qui nous aide à focaliser notre attention. Ils favorisent ainsi l'harmonie, car les énergies circulent à travers leurs formes et leurs couleurs, transformant les aspects négatifs en positifs et apportant un équilibre à nos vies. Nous ne devons pas oublier que les mandalas sont disposés du centre vers l'extérieur. Ceci permet à la personne de se connecter, de se libérer, de se reconstruire et d'interagir. Tout cela par le biais de la projection à travers la sélection des couleurs et des formes. Troisième avantage des mandalas, les mandalas sont une représentation artistique de dessin libre. En d'autres termes, cela signifie que nous pouvons les dessiner comme nous le souhaitons. Mais si nous ne voulons pas les concevoir, nous pouvons également acheter des livres et des cahiers à colorier ou aller simplement sur Internet sur les nombreux sites où il est possible de les télécharger gratuitement. Les mandalas, donc, sont liés à la créativité. Ils permettent d'utiliser les couleurs et les formes en toute liberté. Ils facilitent le processus créatif et sont une source pour générer de nouvelles idées. Par ailleurs, chaque figure et chaque couleur représente un aspect inconscient de la personne. Voici quelques-unes de leurs significations. Par exemple, Yvan, si je te dis le rouge, c'est la couleur de quoi?
Ça me semble actif ou quelque chose qui a rapport à l'activité, certainement.
Oh oui, on nous dit que c'est la couleur de la passion, de la sensualité, de la force, du pouvoir et de l'agressivité, ce qui constitue le premier chakra. Ensuite, la couleur orange. C'est associé au plaisir, à la gloire, à la vanité, au progrès et à l'énergie, soit le deuxième chakra. Et je vais m'arrêter ici et je vais continuer un peu plus loin au cours de l'émission.
Oui, au cours de l'émission, à l'espresso allongé, les cinq avantages des mandalas. On va écouter ça avec très grand intérêt. Merci, Pierre.
Retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
J'accueille maintenant mon invitée, Mme Lisa Benisti. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Folie Douce. Vous êtes de Prise 2. Vous êtes intervenante et adjointe à la direction Prise 2, qui est une ressource en santé mentale de longue date. Moi, je m'en souviens depuis des années. Là, dans les débuts de Folie Douce, on entendait beaucoup parler de Prise 2. Fait que c'est quand même un exploit de durer dans ce domaine. Comment on peut décrire la ressource, justement, Prise 2?
En effet, Prise 2 existe depuis plus de 30 ans maintenant. Ressources alternatives en santé mentale. On fait partie d'un regroupement, alors on est plus d'une centaine de ressources un peu partout au Québec. Et je vous dirais que Prise 2 a la particularité d'offrir un programme thérapeutique.
OK. Ça veut dire quoi, en fait?
En effet, les ressources alternatives, il y a de toutes sortes. Alors, il y a des centres de crise, des centres de jour, des organismes par et pour. Prise 2, avec son programme thérapeutique, offre vraiment toute une variété de pratiques, d'outils qu'elle met à la disposition des membres, de gens qui souhaitent faire un travail pour aller mieux. Et parmi ces outils-là, on a vraiment tout un volet artistique. Alors pour les gens qui voudraient faire un bout de chemin au niveau de l'expression artistique, ouais. Au niveau de l'art visuel, au niveau du théâtre, au niveau... au niveau du théâtre aussi.
Ça a évolué donc au courant des années. J'imagine que Prise 2, comme beaucoup de ressources de l'époque, ça devait être une ressource d'abord pour un peu casser l'isolement puis permettre aux gens de socialiser, mais toutes les ressources de l'époque qui faisaient ça ont comme évolué à leur façon. Alors, vous avez trouvé un peu votre identité.
En effet, les pratiques ont évolué, le vocabulaire a aussi évolué. Il y a aujourd'hui tout un volet au niveau de la pleine conscience, autocompassion... cohérence cardiaque. On a aussi tout le mouvement des entendeurs de voix qui a une place importante au sein de la ressource.
La pleine conscience, c'est en fait la méditation, c'est ça, qu'on encourage pour justement se recentrer, être capable de peut-être se calmer ou c'est ça, il y a un bienfait là, à pratiquer la méditation pleine conscience.
Tout à fait. C'est souvent les gens qui travaillent autour d'une problématique d'anxiété, ouais. qui ont recours à la méditation, mais je crois qu'on y gagne tous à connaître cette pratique-là. Et après, l'autocompassion, c'est vraiment tout un autre courant où on se sert aussi de la pleine conscience pour pouvoir être dans un état d'autocompassion avec soi.
Si on vous demandait de décrire les gens qui fréquentent Prise 2, est-ce qu'on est capable de tracer un portrait ou si c'est assez varié finalement?
C'est assez varié. C'est beaucoup des femmes et c'est beaucoup des femmes, je dirais, qui ont 40 ans et plus. C'est des gens qui souhaitent faire un travail sur eux, mais qui souhaitent aussi contribuer à une communauté. Je pense que c'est vraiment la richesse de Prise 2, c'est que c'est vraiment une communauté qui à la fois travaille sur elle et qui souhaite aussi changer les choses. Alors, on a des actions qui sont posées au niveau de la ressource, mais aussi dans la communauté.
Okay. Comme quoi, par exemple, avez-vous des exemples à donner?
Oui, par exemple, tous les ans, on se retrouve au cinéma Beaubien. On a la projection d'un film sur l'alternative. Ça nous permet d'avoir aussi un lieu de rencontre et d'échange avec des gens qui se sentent interpellés par les questions autour de la santé mentale. On peut aussi poser des actions avec notre groupement. Une fois par an, on se retrouve au métro Mont-Royal pour sensibiliser les gens au mouvement alternatif. Et en même temps, en ce moment, on a beaucoup décloisonné notre programmation, parce que si avant, elle était essentiellement offerte aux membres de Prise 2, elle est aujourd'hui accessible en ligne. Ça veut dire que c'est vraiment pour tous qui souhaitent faire un travail sur soi ou rencontrer d'autres personnes, parce qu'il y a tout un volet d'entraide, il y a toute une diversité de pratiques qui sont offertes en ligne.
C'est probablement la pandémie qui a aidé beaucoup ça. Puis s'il y a des bons côtés, des fois, il y a quelques-uns bons côtés, malgré les mauvais côtés, mais ça en est sûrement un d'avoir aidé les compagnies, les organismes à s'organiser plus avec les services en ligne.
Virage numérique obligé. Ouais. On s'est tous retrouvés...
Rapide aussi.
Rapidement. Ouais. On est vraiment passé en quatrième vitesse, puis on s'est retrouvés à vraiment faire le passage sur Internet. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire qu'on a gardé, surtout, on avait une préoccupation par rapport à... Il y avait un virage numérique, technique à faire, mais il y avait aussi une essence de ce qu'on fait, de ce qu'on aime, de cette relation, de cette bienveillance, cet accueil. Et puis, on souhaitait vraiment que ça puisse ne pas le perdre dans ce passage au numérique. Ouais. Et je crois qu'on l'a vraiment réussi.
Alors, parce qu'on dit souvent aussi que les rencontres en personne, il n'y a pas grand-chose qui bat ça, mais... comment vous réussissez justement, parce qu'on parle quand même de santé mentale, de problématiques, des fois ça peut être grave, moins grave, c'est quand même un défi, mais comment vous réussissez en ligne justement à garder peut-être l'intérêt des gens, là?
Oui, ça commence déjà par une période d'accueil qui est prolongée, c'est la rencontre, elle commence à 10h, l'accueil se fait à partir de 9h30, alors okay. Déjà l'espace où on se retrouve informellement, où on prend le temps d'arriver, de se poser, on l'a maintenu. Après, c'est aussi la bienveillance qui circule dans la possibilité de chacun de prendre la parole comme il souhaite ou de ne pas prendre la parole. Cette option-là, je crois qu'elle est aussi appréciée par les gens. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve nécessairement sur Internet qu'on souhaite davantage prendre la parole. On peut souhaiter être un peu en distance.
Être spectateur un peu ou voir ça de loin un petit peu. Des fois, c'est aussi gratifiant pour la personne.
Exact. Comme ça pourrait se faire en personne. Alors, il y a tout ce volet-là qui reste, toutes ces possibilités-là, cette flexibilité, je crois, de permettre à chacun d'être là comme il le sent. Et après, tout un soutien technique qu'on a aussi offert pour s'assurer que tous ceux qui le voulaient pouvaient... faire ce passage au numérique. Alors, c'était à la fois un soutien technique s'il y avait besoin d'une caméra, d'un soutien financier, mais aussi un soutien pour savoir comment se connecter, pour un branchement, un
truc. Surtout les premières fois, là, c'est ça. Ça peut devenir un peu embêtant. Puis c'est tellement rapide qu'il faut qu'on s'ajuste vite. Puis avec les déplacements, des fois, qui sont limités. Puis... donc, ça, c'est un défi, mais je pense que tout le monde aura grandi, autant les organisations communautaires, là, comme vous, comme Prise 2. Là.
Tout à fait. Et il restait aussi la possibilité pour les gens de se joindre à nous par téléphone, parce que les activités qui se faisaient en ligne étaient aussi accessibles par téléphone. Puis je pense que ça permettait aussi de rester dans quelque chose de plus connu, de plus confortable pour ceux qui le souhaitaient.
Comme intervenante, on le disait tantôt, vous êtes intervenante, vous êtes aussi adjointe à la direction, mais comme intervenante, avez-vous remarqué un changement en santé mentale? T'sais, est-ce que la pandémie, on s'inquiète beaucoup, on se demande souvent, est-ce que il va y avoir un contre-coup par après? On a l'impression que les gens ont une certaine... sont plus forts qu'on pensait en général, en société. Mais est-ce que ça va revenir, est-ce que ça va être pire par la suite? Avez-vous remarqué, disons, un changement au niveau de l'état des gens ou si en général, les gens... s'adapte assez bien et puis réussissent à passer à travers?
Oui, c'est une grande question. Il y a un peu de tout. Je pense qu'on a été témoin de grandes, grandes résiliences de gens qui étaient vraiment impressionnants dans leur capacité à se réorganiser un quotidien, à faire avec, à se contenter de peu quelque part en se disant que c'était un moment difficile à passer puis qu'ils en avaient vu d'autres. Je pense qu'il y avait beaucoup ça, le fait de pour les gens avec qui on travaille, qui ont vécu déjà des expériences difficiles, de se dire que voilà, c'était à nouveau des obstacles, mais qu'ils étaient capables de les traverser comme ils l'avaient fait dans le passé. Et en même temps, pour, à d'autres moments, il y a vraiment une souffrance qui s'approfondit dans l'isolement, dans la perte des contacts, la perte d'un petit quotidien qui permettait d'avoir une certaine qualité de vie.
Ouais. C'est rassurant, des fois, le quotidien puis la routine, c'est ça? Il y a quelque chose de rassurant, là.
Tout à fait. Ouais. Alors, on a bien hâte de retrouver ce contact en personne, cette routine où on se retrouve dans un organisme avec des gens. Puis, si je me permets de revenir à la question par rapport à qui sont nos membres, alors, il y a ces membres qu'on connaît et qui sont là depuis longtemps à prise 2, et on a aussi tout un volet qui est adressé aux jeunes. Alors là, on a vraiment une préoccupation, comme on entend beaucoup en ce moment, une préoccupation pour les jeunes, de les rejoindre là où ils sont. Alors, on a tout un programme de soutien aux études où on va les rejoindre dans les cégeps et les universités.
Donc, jeunes, on parle, c'est ça, à de fin d'adolescence, genre, et jeunes adultes, là, c'est un peu ça.
C'est ça, 16 ans, de 16 à 30 ans, ouais. 35 ans, comme ouais. ça.
C'est un programme qui s'est ajouté parce que ça n'a jamais trop existé dans les ressources. Spécifiquement pour les jeunes, c'est souvent un peu ouvert à tout le monde, puis il pouvait y avoir des jeunes, mais d'avoir un programme de donner l'attention pour les jeunes de 16 à 30 ans, c'est quand même quelque chose.
On a constaté qu'il y avait besoin il y avait des spécificités, un besoin de se retrouver avec peut-être des gens qui partageaient une réalité plus spécifique, avec des gens vers qui on pouvait, avec qui on pouvait peut-être échanger plus facilement. Alors, on a essayé de... On est là-dedans en ce moment. Et ouais. C'est particulièrement intéressant d'offrir aux jeunes aussi un discours alternatif, aussi un discours qui est un discours autre que celui qui est médical, qui est celui qui cherche à trouver un diagnostic pour trouver un traitement. Là, on est vraiment dans un discours qui parle d'expériences humaines, de souffrances, d'émotions fortes, d'émotions intenses, de difficultés. Mais aussi d'espoir, de moments qu'on traverse, d'outils dont on sert. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre aussi à la disposition des jeunes, puisqu'il fait écho.
Et l'approche est probablement différente, parce qu'on s'est posé la question il y a quelques années, on avait l'impression que les jeunes étaient comme un peu... n'étaient pas trop clients ou participants à des organisations... On a l'impression qu'il était un peu n'importe où en ligne ou autre, mais de plus en plus, on sent que les organisations essaient d'aller faire vraiment chercher cette clientèle là, qui était peut-être là, mais qu'on ne sentait pas tant que ça dans les ressources. Mais là, on le sent beaucoup plus qu'il y a une volonté de la plupart des ressources, comme la vôtre. Là.
En effet. Et de rejoindre les gens, c'est toujours un peu là. On cherche toujours à comment rejoindre les gens là où ils sont, dans ce qu'ils sont, dans ce qui les inspire, dans ce qui leur parle. Alors, je pense que c'est aussi ça, d'offrir une diversité d'approches. Et puis, on a beaucoup parlé de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont dans les ressources alternatives. Il y a aussi toute une communauté qui cherche... Ça peut être du travail sur soi, ça peut être un travail psychothérapeutique, mais ça peut être aussi par l'action. On a tout un volet de soutien au travail, soutien à l'action participative dans la communauté. Alors, un emploi, faire du bénévolat. Il y a des gens qu'on va rejoindre... par ces moyens-là et par ces avenues-là.
Donc, contrairement peut-être à autrefois, où en prise 2, comme dans le nord de la ville, probablement avait une clientèle qui était relativement dans le secteur, donc ils pouvaient aller à pied, se rendre. Donc, ça a comme changé, l'approche est complètement différente. C'est plus par vos activités, par votre réputation peut-être, par votre façon d'être, que les gens viennent chez vous numériquement ou en personne.
C'est vrai, je crois que c'est en fonction de ce qu'on offre. Si ça rejoint les gens sont interpellés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va à l'extérieur de notre territoire, bien qu'on reste bien ancré parce que nos partenaires sont dans la communauté, on connaît les ressources qui nous entourent, on travaille ouais. de près avec eux. Mais c'est vrai que quand on cherche à développer les pratiques, ce qu'on fait beaucoup à prise 2, on étend puis on va rejoindre les gens là où ils sont. Par exemple, avec la gestion autonome de la médication, la GAM, les gens nous viennent un peu partout pour avoir un accompagnement à la GAM. Ouais. Quand on fait des conférences, par exemple, aujourd'hui on a fait une conférence sur l'approche Open Dialogue qui vient de Finlande. Là, on était avec des gens d'Europe, des gens d'un peu partout au Canada, mais aussi, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est dans notre quartier, on est bien ancré dans notre ressource, dans notre quartier, mais aussi bien en lien avec des gens qui font partie de cette grande communauté.
Oui, c'est bon de s'inspirer l'un l'autre, en fait, les ressources de différents endroits, les différents pays ou les différentes ressources, c'est fait. Il reste quelques secondes, ça passe vite, mais c'est fort intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, j'imagine que vous avez un site web et un numéro de téléphone. Peu importe si les gens, peu importe la région où ils sont, ils peuvent s'informer et éventuellement participer à vos activités. Qu'est-ce qu'on peut chercher pour
tout
le site web?
Sur Internet, alors c'est prise2sm.org et le numéro de téléphone, c'est le 514-858-0111.
Et prise 2, on écrit prise 2 avec le chiffre et SM en petites lettres. Donc,
SM,
tout collé, hein, c'est ça,
prise
SM.
prise2sm.org.
C'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Lisa Benissi. Donc, on va suivre évidemment vos activités. Vous êtes intervenante et adjointe à la direction, donc à prise 2. Merci d'avoir été avec nous à Folie Douce et à la prochaine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet « Les cinq avantages des mandalas ».
Oui, les mandalas, un mot que je ne connaissais pas, mais que je connais maintenant et qui fait allusion à ces cercles qu'on remplit de couleurs. Et c'est d'origine hindoue ou dans cette région du monde.
Ouais.
Alors, j'étais en train d'énumérer les
significations les, entre les, des ouais. couleurs. Ouais.
Oui, parce qu'il y a toutes sortes de symboles. On remplit ces cercles-là de poudre de couleurs et ça forme finalement des toutes sortes de symboles et toutes sortes de choses. Mais on donnait ici la signification des couleurs. En tout cas, d'après ceux qui pratiquent les mandalas, oui.
Ouais.
Alors, j'étais rendu au jaune. Le jaune, c'est la couleur de la joie, de la volonté et de la nouveauté, ce qui correspond au troisième chakra. Le vert, ça représente l'espoir, la maîtrise de soi et la nature, ce qui est le quatrième chakra. Le bleu, si je te demande, c'est quoi le bleu pour toi?
Le bleu, il y a un côté calme, il y a un côté... c'est ça, ouais. Je dirais le calme.
Oui, le bleu est associé à la tranquillité, au sérieux, au respect et à la communication, ce qui correspond au cinquième chakra. Le violet, c'est la méditation, la créativité et l'oscillation, ce qui représente le sixième chakra. Le blanc, si je te demandais le blanc, c'est
ça,
quoi? Pourquoi?
Ça, je serais embêté de te dire c'est quoi. Ouais.
Ben, en fait, c'est la couleur de la paix.
Ah, OK.
Tu sais, souvent, on voyait ça
des drapeaux blancs.
Des mouchoirs blancs. Alors, pour ceux qui pratiquent les mandalas, c'est la couleur de la paix, de l'harmonie, de la gentillesse, de la délicatesse et de la timidité, ce qui correspond au septième chakra. Ensuite, le noir, c'est la profondeur, le mystère, l'autorité, la dignité, la sécurité, la tristesse et le deuil,
ouais.
Comme pour nous d'ailleurs.
Ouais. Mais c'est vrai que le noir, on dit souvent, c'est un peu comme toutes les couleurs qui s'y retrouvent.
Ouais.
Il y a comme une profondeur en termes
ouais,
de couleurs.
Ouais. La forme du cercle, ça représente le dynamisme et la connexion avec le cosmos. La forme de la croix, c'est l'inconscient et le conscient, l'union du ciel et de la terre. La forme du triangle, c'est la transformation et la vitalité. Le carré, c'est la stabilité et l'équilibre. Et finalement, le labyrinthe, qui est quoi, d'après toi, le labyrinthe?
Une zone sans issue.
C'est pas évident.
Non.
Et on nous dit que c'est la recherche de son centre.
Oui, oui.
Maintenant...
Ça veut dire que dans les mandalas, finalement, selon la volonté de la personne, l'inspiration vont justement concevoir différentes formes avec différentes couleurs. Donc, ça donne...
J'imagine aussi comment on se ressent en cette journée-là.
Oui, c'est ça.
J'imagine. Maintenant, le quatrième avantage des mandalas, c'est pour décorer, simplement. Parce que les mandalas peuvent également être utilisés pour décorer notre maison ou notre lieu de travail. Comme par exemple, peindre des mandalas sur des pierres et les utiliser comme objets ornementaux. Ou encore, tricoter un mandala et l'utiliser comme couverture.
Ouais.
Et tu vois, moi, je ne sais pas coudre.
Non, mais tricoter encore moins, ça, c'est sûr que c'est un art qui est intéressant. Ouais. Quelqu'un qui sait tricoter peut faire pas mal de choses.
Oui. En plus, ceux qui savent tricoter aussi peuvent accrocher une tapisserie de mandala sur le mur.
Oui, ça, j'ai déjà vu ça, c'est ça, que ce soit par un tissu, ou sinon, comme tu dis, une tapisserie.
Ça, on fait ça ici aussi. Chez nous, c'était beaucoup la mode il y a plusieurs années.
Oui, c'était peut-être pas les mandalas, mais il y avait beaucoup de tapisseries.
Oui, il y a aussi faire des tableaux décoratifs.
Ouais.
Et cinquième avantage des mandalas, c'est le côté thérapeutique, comme tu en parlais tantôt un peu plus tôt. Les mandalas sont reconnus en psychologie comme un élément thérapeutique. Le psychiatre suisse Carl Jung déclara qu'il s'agit de représentation de notre esprit qui facilite la concentration, la transformation et l'assimilation des aspects inconscients. Il suggéra que nous pouvons projeter ce que nous ressentons et pensons dans les mandalas. En outre, différentes branches de la psychologie ont parlé de leurs avantages. On considère les mandalas comme un exercice visant à favoriser une connexion profonde et comme un outil pour améliorer les fonctions supérieures telles que la mémoire, l'attention, la perception et la coordination visuo-motrice. Maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet sur les passe-temps les plus relaxants à adopter, c'est sur le site sautedejoie.com et ça s'appelle comme ça, les passe-temps les plus relaxants à adopter. Il y a par exemple la pêche. Mais ça, c'est pas un passe-temps 12 mois par année.
Ben, ça dépend, la pêche sur glace, ça peut se faire aussi.
Ah, c'est vrai, oui.
Peut toujours se faire.
Ou dans une aréna de hockey, peut-être.
Ouais, c'est ça, je pense qu'on peut pêcher grand-chose.
Je penserais pas. Mais on nous dit que la pêche est un excellent moyen de passer le temps et est encore plus efficace pour se détendre grâce au fait que vous... qu'on est en plein air.
Oui, puis en contact avec l'eau, l'élément de l'eau plaît à beaucoup de gens.
Oui, si vous aimez vous asseoir au soleil, sentir une brise fraîche sur votre visage pendant que vous attendez qu'un poisson tire, c'est certainement quelque chose à essayer.
On développe sa patience.
Oui, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait
ça. Moi aussi, ça fait longtemps.
Un autre passe-temps relaxant, il y a la lecture. La lecture doit être l'un des loisirs les plus relaxants de tous. Bien sûr, lorsque vous êtes vraiment fatigué, vous aurez peut-être du mal à vous concentrer sur un livre sans perdre votre temps, mais le reste du temps, il s'agit d'un excellent moyen de récupérer.
Et on peut s'évader beaucoup avec la lecture, effectivement.
Exactement. Il y a aussi le yoga. Est-ce que tu as déjà pratiqué le yoga?
Non, de plus en plus de gens le pratiquent, mais je dis non, pas moi.
Moi non plus. Mais on nous dit que bien que le yoga soit un excellent moyen de tonifier son corps et d'accroître sa souplesse, il comporte également un aspect méditatif. Et finalement, le dernier qu'on cite ici, ben, c'est jouer d'un instrument.
Oui, que tu connais bien.
Oui, oui, mais... Ça peut être énervant si on joue mal.
C'est ça, mais si on joue bien, c'est calmant. Merci beaucoup, Pierre. Donc, les 5 avantages des mandalas.
Entendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. On va nommer les chansons présentées cette semaine à l'émission. En début d'émission, Pierre, on a pu entendre « Je reste ici ».
de Marat Tremblay.
On a écouté Old Enough
de Hey Major.
Dans la deuxième demi-répétition
de Peter Peter.
Et à l'instant, Un amour au Super U
de Louis Hoffman avec Milena Leblanc.
Merci beaucoup pour ton choix musical ainsi que ta mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Merci pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as expliqué ce que c'était, les 5 avantages des mandalas. Mm-hmm. Bien intéressant. On va se coucher moins niaiseux, comme on dit. Merci de tout ça. Notre invité en début d'émission, Laurence Dumont, du Centre d'études sur le stress humain, nous a mieux expliqué justement ce grand fléau qu'est le stress. Mais il y a quand même du positif à tout ça. Merci d'avoir été des nôtres, Mme Dumont. Notre invitée en début de deuxième demi, Lisa Benisti, nous a mieux fait connaître la ressource prise d'eux, une ressource en santé mentale. C'est donc le menu de Folie Douce cette semaine. Bonne semaine à tous. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine. Au revoir.